Alors nous allons passer à une autre de ces personnalités du comité international, grâce à Irène Herman, détentrice d'une double licence en histoire et en russe, d'un doctorat de la faculté des lettres de Genève. Et elle a enseigné à divers titres, tant à l'université de Laval qu'au Québec, qu'à Moscou, puis à Fribourg. Avant de revenir sur Genève, en histoire transnationale de la Suisse. Et parmi ses diverses responsabilités, je retiens sa position de rédactrice romande à la revue Suisse d'Histoire. C'est important pour les historiens romands d'avoir une représentante efficace au sein de cette revue. Et aussi parmi toutes les publications, et en lien aussi avec ce qu'on a entendu ce matin, je citerai Les cicatrices du passé, qui est un essai sur la gestion des conflits en Suisse. Je pense que cette lecture sera un bon complément aussi, une façon de poursuivre la réflexion lancée par Alexis Keller ce matin. Et aujourd'hui, c'est une belle personnalité que Irène Herman va nous entretenir, une de ces pionnières qui, par leur talent, leur courage, leur intelligence aussi, ouvre des voies qui semblaient impénétrables jusque-là, Marguerite Kramer.
Merci beaucoup Françoise, j'aimerais aussi remercier Roger Durand qui m'a, je l'avoue, un peu forcé la main pour que j'accepte ce sujet, mais il est vrai que je l'ai fait avec beaucoup de joie puisque la démarche biographique que j'affectionne finalement assez peu généralement se justifie pleinement ici et que d'autre part la personnalité dont on va parler est effectivement totalement exceptionnelle et très très attachante. Merci beaucoup. Le 27 novembre 1918, quelques jours après l'armistice, le Comité international de la Croix-Rouge faisait entrer Renée Marguerite Kramer dans les instances dirigeantes de l'institution. Apparemment, cette décision a été difficile à prendre. L'idée en a été avancée au début du mois de juin déjà. Elle a ensuite été ajournée et ne sera reprise qu'à la fin de l'automne. Les objections à cette nomination sont nombreuses. Elles tournent toutes autour d'un élément crucial. Marguerite Kramer est non seulement une femme, elle est la première à accéder à ce niveau de responsabilité dans une organisation internationale. Le fait a d'ailleurs fini par intriguer les historiens. Sans exception, ils se sont alors demandé pourquoi le CICR avait attendu plus d'un demi-siècle pour accueillir une femme dans son comité. Et je fais partie de ces historiens, je dois l'avouer. En effet, ces derniers, dont moi, ont expliqué ce retard en soulignant que le mode de recrutement privilégié par l'institution n'était pas démocratique ou que l'aide institutionnalisée au blessé était l'un des seuls moyens dont disposaient les hommes d'un état neutre, les Suisses, pour se frotter à la guerre. Et de fait, dans la plupart des autres pays, les promoteurs de l'humanitaire sont des figures féminines. On pense ici à la grande-duchesse Elena Pavlovna en Russie, à Clara Barton aux États-Unis ou bien sûr à Florence Nightingale en Angleterre. Néanmoins, force est d'avouer que ces inspiratrices, qui ont toutes été actives dans la seconde moitié du XIXe siècle, ont souvent été remplacées ou en tout cas entourées par des hommes. En dépit de leur incontestable visibilité, elles demeurent des exceptions dans un monde presque exclusivement dirigé par des acteurs masculins. Ce constat banal suscite une question qui l'est moins. En effet, il pousse à inverser l'interrogation classique, clairement influencée par une vision ex post, et à se demander pourquoi les membres du comité ont entrepris de coopter une de leurs collègues, puis de comprendre en quelle mesure la paix a joué un rôle dans cette promotion intricante. Car Marguerite Kramer ne sera pas une dérogation unique à une règle de masculinité intangible, mais constituera une brèche dans laquelle s'insinuera un nombre faible, mais croissant de dames, appelées à faire entendre leur voix au sein du comité. On a évoqué Suzanne Ferrière, aussi Mme Chapelière, ou encore M. Dier, il y aura quelques-unes après. Mieux encore, nommer des femmes ne fait pas partie des pratiques de bonne gouvernance en 1918 et ne répondront pas à une obligation de communication telle qu'on la conçoit aujourd'hui. Pire encore, cette politique risque de discréditer l'institution, tant il est vrai que les organes internationaux ne comptent alors pas de femmes parmi ce qu'on appellerait aujourd'hui leur cadre supérieur. C'est en tout cas la manière dont c'est perçu au sein du CICR. l'énigme reste donc entière. Je tenterai de la résoudre en décryptant les pressions qui ont pu engager le CICR à promouvoir Marguerite Kramer. Tout d'abord, je retracerai les circonstances qui président à cette décision au sein même du Comité international ou de l'Agence internationale des prisonniers de guerre. Ensuite, j'essayerai de comprendre dans quelle mesure la principale intéressée a pu motiver le surprenant honneur qui lui a été fait. Et enfin, je me pencherai sur l'ambiance générale dans laquelle s'inscrit cet événement, tant dans le monde qu'en Suisse. En dernière analyse, l'examen des raisons qui ont conduit le Comité international à distinguer cette femme-là, à ce moment-là, devrait nous apprendre davantage sur l'état d'esprit qui régnait au sein de cette structure à l'époque même de l'armistice. Donc, les événements. Le 1er juin 1918, Édouard Naby, dont il a déjà été question, propose la nomination de Marguerite Kramer au comité en raison, je cite, de sa compétence et des services rendus. La présence d'une dame au comité international ne ferait que le couronner et le renforcer. Mademoiselle Kramer est ainsi nommée au comité international en réserve de l'assentiment de M. Adorf. Fin de citation. Ce dernier se rallie à cette suggestion une dizaine de jours plus tard, vu, toujours je cite, les qualités hors ligne de la candidate, tout en pensant que cette nomination féminine, la première dans un organe international, surprendra l'étranger. Fin de citation. Immédiatement, plusieurs membres soulèvent pourtant des objections. Celles-ci sont approfondies lors d'une séance particulière du comité et s'axent autour de deux problèmes étroitement corrélés. La nomination d'une femme, s'inquiètent certains, ferait irrémédiablement ressurgir la question tant redoutée de la commission du comité, de la composition du comité. Depuis 1887 au moins, des voix s'élèvent pour revoir la règle officielle réservant l'accès à l'organe directeur du CICR aux seuls ressortissants suisses, voire, comme on le murmure in petto, aux seules jeunes voix issues de l'ancien patriciat de la ville. Ces critiques ambitionnent d'appliquer l'adjectif international dont s'honore l'institution, non pas à l'étendue de ses actions, mais à l'origine de ses membres les plus influents. Sur ce canevas déjà ancien vient se greffer un problème nouveau. En effet, au moment des débats, Mademoiselle Kramer dirige la section Entente de l'Agence internationale des prisonniers de guerre. Dès 1917, celle-ci se charge des captifs américains, dont s'occupe également un bureau états-unien installé à Berne. Rapidement, les deux organismes connaissent des difficultés de communication, se concurrencent et finissent par entrer en rivalité. La situation devient vite personnalisée, et dégénère en lutte sourde, quoique toujours plus ouverte. L'âpreté de ce combat transparaît quand en mars 1918, la jeune femme demande, sans succès, à démissionner. Cette dureté s'imagine à nouveau dans les discussions du mois de juin 1918, quand William Drapard dit redouter que la nomination de Marguerite Kramer ne soit considérée comme une provocation par les structures d'entraide américaine et partant comme un embarras potentiel. Dans ce contexte, on décide de ne rien décider. Soit, je cite, de désigner Mademoiselle Kramer pour faire partie du comité dès que les circonstances le permettront. Fin de citation. Sur ces entrefaites, la principale intéressée prend un mois de congé, après lequel elle est envoyée en Allemagne. La question de sa promotion ne ressurgit que le 6 novembre, soit 3 jours après la signature de l'armistice avec l'Autriche, au moment où les pourparlers avec l'Allemagne se préparent. L'idée de sa nomination est encore quelques semaines à mûrir au sein d'un comité qui, on le comprend bien, est préoccupé par une actualité brûlante. Mais le 27 novembre 1918, le procès-verbal de l'AIPG indique, je cite, « Mademoiselle Kramer a accepté l'appel que lui a adressé le comité international et entre dès ce jour dans le comité international comme membre ». Fin de citation. Le moins que l'on puisse dire est que les motivations de l'institution sont peu explicites. On en sait bien davantage sur les raisons ayant incité à repousser cette nomination. On saisit ainsi que la décision est particulièrement délicate parce qu'étroitement imbriquée dans un jeu institutionnel épineux. Les objections révèlent tout d'abord la vulnérabilité réelle ou présumée du comité qui veut éviter tout débat sur sa composition comme si une telle discussion pouvait miner sa crédibilité et sa légitimité. Les observations indiquent aussi la place dominante prise par les instances américaines qui, il est vrai, disposent de sommes d'argent dont les Genevois ne peuvent que rêver. À ce titre, elles estiment pouvoir intervenir dans les affaires humanitaires pour les gérer selon leur propre modèle d'efficacité. Dans l'ensemble, on sent qu'en dépit des louanges appuyées qui lui sont adressées, le CICR juge prudent d'attendre la fin du conflit mondial avant de promouvoir Marguerite Cramer. Ces considérations ne permettent toutefois pas de comprendre pourquoi les membres du comité n'ont pas abandonné leur projet, mais ont finalement coopté leur concert. Force est donc d'exploiter les maigres pistes qu'ils ont eux-mêmes indiquées, à commencer par les qualités de la candidate elle-même. J'en viens à sa personnalité. Les appréciations énoncées au cours des différents débats l'ont assez montré. Marguerite Cramer n'est pas n'importe qui. Tout d'abord, comme le note éloquemment Jean-Adolphe Bespine, je cite, « Mademoiselle Cramer a tous les titres pour faire partie du comité dans lequel a siégé son grand-père. » On revient à cette logique familiale qui a déjà été évoquée par Daniel. Comité dans lequel a siégé son grand-père et dans lequel siégeait alors son oncle. La jeune femme est issue de ce milieu privilégié dans lequel se recrutaient les membres du CICR. Pour l'essentiel, il s'agit des descendants de cette aristocratie locale, destituée du pouvoir par la révolution radicale de 1946, et qui, avant de revenir progressivement dans l'arène politique, s'était repliée sur la banque, l'académie ou encore l'humanitaire. Mais contrairement à la majorité des femmes de son entourage, Marguerite Cramer n'entend pas se cantonner au plaisir de la vie domestique ou mondaine. Elle obtient une licence en droit, puis un doctorat en histoire. C'est à ce dernier titre d'ailleurs qu'elle doit être nommée professeure suppléante à l'Université de Genève en 1914. Pendant quelques mois, elle remplace un proche, Charles Bourgeot. Elle est alors, et de loin, la première historienne à porter le titre de professeure en Suisse, en tout cas au niveau de l'histoire. Et vous comprenez pourquoi cette personnalité m'a tant intéressée. C'est d'ailleurs d'autant plus étonnant qu'on a affaire ici à une société qui craignait encore de faire parler des femmes en public, de peur qu'elles n'éveillent des pensées déplacées dans l'esprit de leur auditoire masculin. C'est donc une personnalité hors norme qui s'engage aux premières heures de la guerre dans les services de l'IPG. En soi, ce geste pourrait être vu comme une soumission à la mode du temps, puisque de nombreuses jeunes filles de la bonne bourgeoisie locale font alors le même choix. Et on l'a entendu tout à l'heure. Mais Marguerite Cramer ne se borne pas à faire du secrétariat. Elle entre dans la direction de l'agence et est régulièrement envoyée en mission. En 1916, elle part ainsi pour Paris, pour Berne. L'année suivante, elle se rend avec Edmond Boissy à Copenhague, à Stockholm et à Berlin. Dans la capitale allemande, les choses ne se passent apparemment pas sans peur. En effet, quand le comité décide à la fin du mois d'août 1918 d'y renvoyer la jeune femme pour une visite supplémentaire, les autorités du Reich s'y opposent car elles redoutent son franc-parler et sa perspicacité. Deux traits de caractère apparus dans le rapport rédigé à l'issue de son séjour précédent. Le comité observe qu'il ne saurait, je cite, « comment remplacer utilement Mademoiselle Cramer », fin de citation, et la situation se développe courant octobre. Cette péripétie est symptomatique de la position de Marguerite Cramer face au comité. D'un côté, ses capacités sont reconnues et hautement appréciées, de telle sorte que ses velléités de démission suscitent toujours des protestations véhémentes et le déploiement de stratégies diverses pour amener la jeune femme à revenir sur sa décision. Mais si cette grande intelligence frappe, c'est qu'elle est libre, foisonnante et pétillante. En d'autres termes, elle n'est pas contrôlable. Et ce qui fait sa plus grande qualité suscite aussi les plus grandes craintes, non seulement chez les autorités prises en faute, mais également au sein du comité du CICR. Dans ce cadre, la nomination de Marguerite Cramer apparaît comme une réponse idéale à cette configuration duale. D'une part, cette promotion vient consacrer les mérites exceptionnels et éminemment précieux d'une femme qui, en outre, provient du milieu social indispensable au statut de membre du comité. Ensuite, cette affiliation permet d'encadrer la candidate et se présente comme un moyen pour, je cite, que les idées nombreuses et généreuses qu'elle lance soient contrôlées par le comité. Fin de citation. On note toutefois que cette supervision, quand elle fait après la fin de la guerre, ce qui peut s'expliquer de différentes manières. Comme le suggère une lettre circulaire envoyée fin novembre aux diverses Croix-Rouges nationales, le CICR se doutait bien que la cessation des combats modifierait son action et en tout cas réduirait d'autant la tâche assumée jusqu'alors par l'Agence internationale des prisonniers de guerre. Voulait-on bénéficier des réflexions d'une Marguerite Kramer tout juste libérée de l'AIPG pour aider à concevoir la paix? C'est possible, mais peu probable. En fait, ces textes à ce sujet sont plutôt rares et s'intègrent dans une défense institutionnelle face à la concurrence de la Ligue, déjà abondamment évoquée par Roger Durand. Dès lors, ce qui a joué dans sa nomination et sa temporisation est peut-être moins ce que la jeune femme pensait de la paix que la façon dont cette même paix avait transformé des pensées. J'en viens au contexte. La proposition de nommer Marguerite Kramer s'appuie non seulement sur la compétence de la candidate, mais aussi sur l'effet positif qu'aurait la présence d'une dame dans le comité. Gustave Adorf adhère pleinement à cette vision des choses, puisqu'il se félicite du rôle pionnier que le CICR jouerait en la matière, tout en soulignant qu'une telle audace risquerait de surprendre à l'étranger. Alfred Gauthier semble le rassurer en évoquant l'esprit du temps. De fait, il, je cite, « relève l'égalité complète qu'a soulignée et mise en évidence la guerre entre la femme et l'homme ». Fin de citation. Dès lors, vu les qualités incontestables de la candidate, sa nomination ne serait, je cite toujours, « qu'une question de justice et serait appréciée même par les antiféministes ». Qui est donc un petit clin d'œil en titre. En d'autres termes, la roue a tourné et le monde entier admirerait l'initiative du comité sans songer à s'en offusquer. L'analyse n'était pas fausse. On sait maintenant combien les deux guerres mondiales ont modifié les rapports de genre et accéléré l'émancipation féminine. Dans la plupart des pays belligérants, les femmes ont remplacé les hommes partis au front. Elles ont occupé des fonctions et exercé des métiers qu'on pensait alors typiquement masculins. À la fin de la Grande Guerre, les sociétés ont du coup posé avec cette nouvelle réalité. Au lendemain de l'armistice, cet ajustement s'est effectué de manière contrastée. Au niveau professionnel, il s'est souvent soldé par le renvoi des femmes soit à des places subalternes, soit dans leur foyer. Mais sur le plan civique, une vingtaine de gouvernements leur ont octroyé des droits électoraux, sans doute destinés à consolider la démocratie ou pseudo-démocratie qui venait de s'établir, mais aussi censé récompenser les citoyennes pour services rendus pendant les hostilités, en leur reconnaissant un statut officiel de majeur. Dans ce contexte, la nomination de Marguerite Kramer pourrait se concevoir comme un geste modérément audacieux. Cette promotion n'était pas totalement insolite, mais légèrement en avance sur son temps. Courageux, mais pas téméraire. Ce serait toujours oublier que le CICR n'est pas une organisation internationale comme les autres et qu'il est très dépendant du pays dans lequel il a été fondé et s'est développé. Le lien entre l'institution genevoise et la Confédération s'est même considérablement resserré en juin 1917 quand, comme on le sait très très bien, Gustave Adorf a été nommé conseiller fédéral. Or, si la Suisse d'immédiate après-guerre connaît de petits sursauts féministes, puisque 5 cantons et demi sont appelés à se prononcer sur le suffrage féminin, le pays reste farouchement misogyne. Les votes sur les droits électoraux des Suissesses sont tous rejetés, peut-être parce qu'on leur trouve un parfum trop gauchiste. Mais l'ensemble de la société évolue dans une ambiance défavorable à l'émancipation des femmes. Il est vrai qu'en Suisse, il n'est nul besoin de renforcer la démocratie. Plus étonnant peut-être, on n'éprouve pas le besoin de remercier les Suissesses de leur investissement durant la guerre. La raison de cette ingratitude réside dans la survalorisation du concept de neutralité. Grâce au désengagement militaire, la Confédération est censée avoir pu vivre 4 années de paix. Dans ce cadre, les seuls acteurs helvétiques amenés, entre guillemets, à faire la guerre sont précisément les humanitaires. Ainsi, l'ambiance fort peu féministe régnant dans le pays à l'issue des combats est paradoxalement susceptible de conforter les membres du comité, qui sont donc engagés dans l'humanitaire, qui est une manière de faire la guerre, de les conforter dans leur décision de nommer Marguerite Ramel. Conclusion. Au terme de ce parcours, on comprend que la promotion de Marguerite Ramel s'inscrit dans une addition de facteurs favorables. Ses qualités sociales et intellectuelles sont bien entendu un élément crucial. Mais à elle seule, ses vertus n'auraient sans doute pas suffi à déterminer son élection au comité. Le fait que plusieurs femmes soient nommées après elle montre qu'en dépit de ses talents extraordinaires, on ne voulait pas la considérer comme une exception. En outre, même si son avancement s'insère dans une actualité internationale propice au développement des droits féminins, elle n'explique pas pourquoi le comité a continué à coopter des femmes. D'autant plus que la Suisse se montre alors plus disposée à promouvoir l'égalité des genres, ne serait-ce que pour souligner les bienfaits de la paix dont le pays aurait joui pendant ces 4 années de guerre, ne serait-ce donc que pour accentuer les avantages de la neutralité et partant prouver l'excellence des élites gouvernementales qui l'avaient maintenue. Le contraste qui se dessine ainsi entre le CICR et l'état gardien de la Convention de Genève s'avère riche de sens, que ce soit du point de vue institutionnel, sociopolitique ou dans une perspective temporelle plus globale. Par opposition au contexte helvétique, la nomination de Marguerite Kramer apparaît comme un acte d'indépendance du comité international vis-à-vis de la Confédération à une époque où il est supposé être inféodé à Berne. Parallèlement, cette promotion trahit l'importance que l'organisation attache à ce... trahit l'importance que l'organisation attache à se montrer progressive, voire progressiste, soucieuse de prouver que son ancienneté rime toujours avec modernité. Mieux encore, elle indique une prise de conscience majeure sur la prise de conscience de la nécessité de régénérer les modalités de l'aide humanitaire et de s'ouvrir à toutes les solutions susceptibles d'adapter cette activité aux nouveaux besoins du monde. Replacée dans le contexte helvétique, la promotion de Marguerite Kramer prend une dimension supplémentaire. A contrario, elle montre que la démocratie peut contrecarrer une certaine égalité homme-femme et que le déterminisme social présidant aux modalités de recrutement du comité a en l'occurrence été favorable à Marguerite Kramer, dans la mesure où le social faisait que le comité se recrutait dans un bassin relativement étroit, dans lequel la figure de Marguerite Kramer pouvait émerger avec force. A contrario toujours, mais de manière plus globale, il atteste, donc cette nomination atteste, que la fin de la guerre peut se concevoir comme un espace de réinvention où les charges du conflit s'estompent et laissent place à des mesures destinées à éviter le retour des hostilités. Dans ce cadre, le CICR a su saisir sa chance, lui qui n'était pas accablé par des charges immenses comme les belligérants, lui qui ne pensait pas être sorti indemne de la guerre, ne s'estimait donc pas exempté de toute remise en cause ou d'obligation de changement, comme le croyaient les Suisses. Dès lors, si Marguerite Kramer est entrée au comité du CICR en novembre 1918, ce n'est pas seulement en raison d'une configuration individuelle et temporelle particulièrement propice, mais aussi parce que le CICR a su l'exploiter à la faveur d'une position particulière entre guerre et paix, qui est toujours la sienne aujourd'hui.